L'envolée en direct du procès des évadés de Moulins, février 2009. On continue le compte-rendu quotidien de ce qui se passe dans la cour d'assises de Lyon depuis maintenant le 2 avril. Là, on revient sur les journées de mardi 16 avril et mercredi 17 avril. Ça commence à être la fin du procès. Il y a eu les parties civiles qui se sont exprimées la veille. Et là, la journée du mardi commence par les réquisitions du procureur bicéphale. Donc le procureur bicéphale est constitué donc de Renesi, un homme Renzi,
Philippe.
un homme rougeau, on peut le dire, les cheveux grisonnants et une tête inexpressive au possible, si ce n'est quand il exprime de la haine. Et sa voisine, Madame Dufournet.
Jacqueline.
Jacqueline, elle, chevelure jaune pisse
Chevelure moquette.
et chevelure moquette, qui tous les deux forment un duo du diable depuis le début du procès, et qui ce jour-là, le jour des réquisitoires, sont arrivés en premier dans la salle, quand on rentrait dans la salle, juste après le passage des chiens renifleurs qui passent tous les jours dans cette pièce pour voir s'il n'y a pas des choses qui ont été planquées qui permettraient éventuellement quoi que ce soit, une évasion dans cette salle.
C'est vrai
Ils
que ce
sont
serait le
là.
bon moment là.
Il y a les Dalmatiens qui débarquent après les chiens renifleurs.
Voilà, c'est ça. Dalmatien, c'est une citation. Hein.
Omar.
Omar. Et donc ils sont tous les deux sur leur perchoir, voûtés. On se demande si dans leurs écoles, on leur apprend à se tenir comme ça, là, tels des corbeaux, des vautours sur la hauteur de
Perchoir.
leur perchoir, là, avec dans leur robe rouge. Ils sont les seuls à partager la robe rouge du président. Donc c'est vraiment les trois magistrats et en plus qui sont un peu plus hauts que le reste de la cour. Et évidemment que des baveux et des avocats qui eux sont en dessous. Voilà. Et puis que tout le public qui est en bas, quoi. Bref,
Donc
donc ils sont
alors,
là.
c'est le parquet qui fait les accusations, c'est le parquet qui fait les actes d'accusation. Enfin, en gros, c'est le parquet qui a donné la couleur du dossier quand même énormément, quoi.
Exactement. Et qui a essayé de coller des choses supplémentaires qui sont tombées au cours de l'instruction. Et au moment où donc l'acte d'accusation est formulé pour le procès, il y a des choses qui ont disparu, qu'ils auraient bien aimé coller en plus aux accusés et aux co-accusés. Alors là, les réquisitoires, ils se passent en deux temps. C'est l'intérêt d'avoir deux têtes comme ça, là. Ils se partagent le travail. Ils répètent à peu près les mêmes choses, hein, chacun à leur manière. La deuxième revient un peu plus sur les faits, alors que le premier. Et plus dans des considérations générales, et des considérations générales qui sont le tout venant d'un cours pour première année de droit, une mauvaise digestion de
Même pas un
l'intégralité de
cours
l'histoire de
de droit
l'humanité.
civique au lycée,
Voilà,
connerie comme
entre le cours
ça.
de droit civique et lycée et l'Odyssée de l'espèce, quoi. C'est ce que fait Renzi, là où il part, qui est lui, donc il se dit évidemment représentant de la société, et direct. Il dit qu'il défend, alors là il commence déjà par une perle, il dit qu'il défend donc cette société où on retrouve dont la
Devise.
devise est liberté, égalité, sécurité.
Respect de la loi.
Sécurité et respect de la loi. Donc là, ça pouffe quand même dans la salle, quoi. Et ce sera repris plus tard dans sa plaidoirie par Ripper. Qui s'évertuera à défoncer cette espèce de drôle de truc, mais qui résume parfaitement, au fond.
Les
Ils ont fait
relents
juste, ils ont fait juste,
pétainistes,
voilà,
comme on dit.
ils ont juste fait disparaître la fraternité, c'est pas pour rien, et c'est exactement ça ce qu'ils veulent démontrer. La sécurité. Alors, il est dans un registre où il veut évidemment rappeler à la cour et aux jurés, enfin, aux jurés principalement, il s'adresse à eux en permanence, hein, c'est ça le principe du proc, hein, parce qu'il défend la société, il pose l'acte d'accusation et il s'adresse aux jurés en disant je suis l'avocat de la société, et à ce moment-là, vous n'êtes pas la société, vous êtes des juges. C'est ça ce qu'il s'évertue de leur dire, à leur dire. Et donc il leur dit gardez-vous d'un trop-plein d'émotions, faites jouer votre raison. Du côté de la défense, on essaiera de vous faire verser des larmes.
Ce qui est marrant, c'est qu'il dit ça et qu'en fait c'est complètement à contre-courant de la fonction même des jurés quand ils ont été inventés, en fait, parce que quand on a inventé les jurés, c'était justement pour ramener l'émotion. C'est même comme ça que ça a été dit, quoi. Les jurés, c'est 89 et tout, hein, c'est introduction à la Révolution française, machin. Il faut plus que la justice soit la justice des puissants contre les faibles, il faut que le peuple participe à la justice. Et en l'occurrence, il faut que le peuple participe à la justice, c'est pour ramener.
Face à la froideur de la raison,
voilà, ça, face à la froideur du droit pénal, quoi, enfin, face à la, droit, à la froideur du droit, il faut maintenant que le peuple ramène ce qu'il a de compréhension, d'humanité, de machin. Donc en fait, il fait semblant de faire des cours d'histoire du droit, et en fait, il les inverse à longueur de temps. Quoi. Il joue avec des notions, enfin, il retourne des notions.
Mais parce que là, il a tout intérêt à faire ça, étant donné qu'il y a eu des prises de parole qui ont effectivement, ou qui peuvent avoir ému, à un moment ou l'autre du procès. Et là, il les remet dans un rôle, il leur redonne cette immense responsabilité. Il fait peser son travail, leur travail à tous les deux, c'est de faire peser une immense responsabilité aux jurés, histoire qu'ils se disent, comme c'est le cas dans les trois quarts des jurés d'assises, qui se disent systématiquement, mieux vaut que je laisse crever quelqu'un en prison que la société, à un moment ou l'autre, me reproche, sous la forme d'un fait divers sanglant qui viendra la prochaine fois, le fait d'avoir laissé cette personne courir.
Ça d'un côté, et aussi, si tu fais peser autant de responsabilités sur quelqu'un, en l'occurrence sur tous ces jurés-là, en fait, ça produit aussi un truc de « je suis pas à la hauteur de cette responsabilité hallucinante qu'on me donne », et du coup, tu te reposes vachement dans les mains du juge, qui lui est le spécialiste de l'histoire, qui lui va te dire ce que c'est le bon tarif, quoi.
C'est enfin, celui qui connaît le droit.
Bah, c'est lui qui sait, en fait.
Donc, une fois qu'il a dit ça, il cite le bouquin de Top en disant, d'Omar, quoi, en disant que contrairement à ce qui est écrit là-dedans, ce tribunal n'est pas une arène, il n'y a pas de mise à mort, et que les condamnés ne sont pas des animaux. Je fais tout un falbala ridicule sur les arènes qu'on passe. Il dit que ce n'est pas non plus une guerre, parce qu'il n'y a pas de vainqueur ou de vaincu. Le triomphateur, c'est la loi.
Seule la loi passe.
Voilà. Si parfois il y a des fossoyeurs de la justice, ils ne sont pas de ce côté-ci de la barre. Voilà. Ce procès ne peut pas être celui des longues peines, ni celui de la prison. Donc là, il reprend les patins, on commence des avocats des parties civiles, que la veille ils ont attaqué très très fort là-dessus, en disant que, oui, parce que les parties civiles, eux, anticipant sur la défense des accusés, et reprenant les choses qui se sont égrenées pendant le procès, ont insisté très lourdement sur le fait que oui, les conditions de détention étaient horribles, que la tôle était un mouroir très souvent, mais que ça pouvait changer patati patata. À chaque fois, ils ont retourné ce truc-là, ça a été raconté précédemment. Donc lui, il dit non, 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 attention, il franchit un cap supplémentaire, il dit non, non, on oublie ça aussi, on est bien gentil, vous êtes bien gentil avec ça, mais là, on n'est pas là pour juger, bon, et c'est son travail, hein, effectivement, c'est son travail de rappeler que ce tribunal n'est pas celui... Et pas celui qui va juger les longues peines et la prison. Et donc il dit, j'ai eu l'impression d'un procès à l'envers, Kider se plaçant d'égal à égal avec les surveillants, parce qu'il les aurait tutoyés, parce qu'il s'adressait à eux directement, ou parce que, simplement, les deux matons pris en otage, comme on l'a dit aussi, s'adressaient à lui. Et par moments, disaient et s'adressaient directement à lui. Et ça, cette espèce...
Ils s'appellent par leur prénom, ils se tutoient, ouais. Mais de fait, ils ont vécu ensemble. C'est triste à dire, mais ils ont vécu ensemble. Ils se connaissent, quoi.
Donc lui, il est là pour rappeler que non, non, c'est pas pareil. Parce que cette personnalité de Kider, elle doit pas être sympathique, premièrement. Et puis, parce que toute l'accusation repose sur le fait que Kider et les accusés, eux, n'ont pas la violence légitime entre les mains et qu'ils ont aucune légitimité à se servir d'une arme quand les surveillants ou les flics, qui eux ne sont pas poursuivis de fait pour avoir tiré sur ces gens, quand bien même Christophe est le seul à se retrouver avec une balle dans le buffet, les seuls à tirer, c'est eux. Donc lui, il dit non, non, mais les seuls qui ont le droit de tirer, c'est eux, effectivement. C'est pas Kider, c'est pas Top, eux, ils n'ont pas à avoir d'armes et il faut arrêter de les regarder comme des gens qui pourraient avoir une quelconque légitimité à faire ça. Ensuite, il rappelle que la justice n'est pas la morale, que la justice est là pour punir. Donc c'est toujours voilà, ce condensé de ce qu'est le travail de juge en général. En fait, hein,
il veut à la fois couper l'herbe sous le pied de la défense, dont il sait très bien qu'évidemment elle va parler des conditions de détention, puisqu'on juge des gens qui ont passé leur vie en prison, en l'occurrence pour les deux évadés. Du coup, forcément la défense va parler de ça. Et après, il coupe aussi l'herbe sous le pied de ce qui s'est vraiment passé pendant le procès, à savoir que... Je vois pas qui peut pas être ému par les paroles de Christophe ou les paroles de Marc, chacun à leur manière, en fait. Effectivement, il y a eu beaucoup d'émotions. C'est des gens qui nous ont mis des tartes, et forcément que ça a un peu tapé. Donc ils savent aussi que ça a eu lieu. On a bien senti qu'ils veulent désamorcer ce truc.
Et c'est pour ça qu'il leur dit, vous êtes pas des médecins, vous êtes pas des sociologues, vous êtes des juges à part entière. Puis suit, là, une tirade sur la prison quand même, qui fait un petit peu, où il dit, mais attendez, la prison, et là il réhabilite la prison. Voilà, il fait un travail de réhabilitation de la prison normale en disant, la prison est une peine moderne, elle a plusieurs fonctions, punir, expier, réinsérer, et neutraliser des individus comme Kider et Top. Parce que c'est des individus qui sont socialement dangereux, qu'on ne peut pas laisser en liberté. Point, il a résumé l'intégralité de ce
dernier. Il refait son cours de droit de merde, là, mais c'est à ce moment-là aussi qu'il nous a refait l'histoire de l'humanité en deux phrases. C'était 2000 ans Odyssée de l'espace, le truc. Donc c'était « De tout temps, l'homme a eu peur. De tout temps, l'homme a été angoissé, comme ça. Et alors, pour répondre à son angoisse, qu'est-ce qu'il a fait, l'homme ? Bon, bah, il a construit des murs, après il a bâti un état, et après il a désigné une police. »
Il a rédigé des lois.
Il a rédigé des lois.
Et désigné la police.
Voilà.
En disant, j'accepte de confier la violence légitime à la société.
Ça, c'est voilà. La civilisation, quoi.
Voilà, c'est son... Hop là, c'est vite torché. Et là, ce qu'il a dit, est-il si difficile de respecter le contrat social. La tarte à la crème du contrat social. Et quant à la prison, c'est la seule peine adaptée à des infractions graves pour des individus qui sont socialement dangereux. Il en met des couches là-dessus. On sait ce qu'on va dire la défense, la prison, on connaît, hein. on la contrôle, voilà, là il égrène tout ce qui contrôlerait les détentions et la prison, il dit il y a même la Cour européenne, il y a même l'Europe, il y a même ceci, cela, enfin il dit à peu près n'importe quoi, et il répète que la paix a des règles, hein, et que notamment depuis 81, s'il y a bien une période depuis laquelle on ne peut pas dire que la prison ne connaît pas de règles et qu'elle n'a pas été améliorée, c'est bien depuis 1981. Il y a un avant 81 et un après 81. 81, c'est Badinter et la grande légende de l'abolition de la peine de mort qui conduirait à des prisons modernes et des prisons humaines.
Tous les prisonniers et nous avec eux, on se tue à dire que depuis 81, en fait, c'est quasiment l'inverse et qu'effectivement, la peine de mort a été remplacée par des trucs beaucoup plus sournois.
Exactement. Il dit que la peine de la prison n'est pas la même, elle n'est pas dans le même état qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Hein, qu'il y a aujourd'hui une porosité entre l'intérieur et l'extérieur. La preuve, il y a même des prisonniers qui communiquent avec l'extérieur. Retournement absolu de ce truc-là, ce que la paix s'acharne à faire disparaître, il le retourne. Et il dit, bah, c'est bien la preuve qu'aujourd'hui, quand même, merde, hein, on n'est plus dans la vieille prison. Et il finit par ça, et puis après on s'arrête avec tout le baratin qu'il a servi. Il finit par la prison, c'est la vie. Voilà. Et dans 10 ans, 15 ans, ce sera encore mieux. Donc, n'ayons pas peur de condamner ces gens à 10 ans, 15 ans, 20 ans supplémentaires, parce qu'au fond, ils vont connaître l'amélioration de la prison, donc on a tout intérêt à les laisser en prison, et eux-mêmes sont les premiers à en bénéficier, merde.
Comme la prison, c'est la vie, ils vont avoir une vie de plus en plus meilleure.
C'est ça. Donc après, s'enchaîne, après qu'il ait fini de suffoquer, parce qu'à côté de ça, il est rouge, Kakoshim, et il a un mal fou à respirer à la fin de ses trucs, et on le voit même pas rougir, tellement il est rouge, et enchaîne donc là sa voisine dalmatien, qui, elle, rebalaye, en fait, après quelques généralités de même acabit, elle rebalaye l'acte d'accusation, et confirme et insiste centralement sur les tentatives de meurtre. Voilà. Alors, en rappelant que la tentative de meurtre sur les policiers au moment de l'arrestation, elle a été balayée avant l'instruction, enfin à la fin de l'instruction, donc elle n'est pas dans le cadre du procès, mais que celle sur les deux matons, Schwertz et Canin, elle reste d'actualité et qu'il faut les condamner pour ça. Voilà. Alors, ils sont persuadés, elles répètent que les peines définitives, ça n'existe pas, hein, que les gens ne meurent pas en prison, qu'on ne finit pas, qu'on ne passe pas sa vie en prison, que ça c'est des conneries, que c'est la légende.
C'est très important, voilà. parce que là, on a vu à l'œuvre un truc qui est de plus en plus, en cours, c'est que maintenant, quand ils annoncent des peines, le parquet, au lieu d'annoncer des peines, ils annoncent les aménagements de la peine, quoi. C'est-à-dire maintenant, ils disent, au lieu de dire... mettez-lui 10 ans, ils disent mettez-lui 10 ans, il va en faire 5, parce qu'en fait, maintenant, quand on prend 10 ans, on en fait 5. Quoi. Et du coup, l'un comme l'autre, hein, les deux, ils ont fait exactement le même truc, ils nous ont fait cette tarte à la crème hallucinante des aménagements de peine, des conditionnels, de ce truc de surtout arrêter de croire les mensonges, il n'y a plus personne qui meurt en prison, c'est pas vrai, on meurt pas en prison, une perpétuité, c'est jamais une perpétuité réelle. Et en fait, quand on annonce une peine, il faut toujours la diviser par deux. C'est ce qui leur permet du coup, parce qu'on va passer aussi sur elle en fait, hein, elle nous a fait du pathos à longueur de temps sur les pauvres victimes et machin, mais en fait, ils ont abouti à un truc, c'est Du coup, on va mettre la même peine pour les trois complices, à savoir Baeb, Nadia et Sylvie. Et la peine qu'on va leur mettre, c'est 9 ans. Parce que ces 9 ans, en fait, ça correspond à 9 divisé par 2, c'est-à-dire 4,5. Et comme ils ont fait déjà 4 ans de préventive, en fait, c'est comme si on leur mettait rien, plus ou moins.
Ouais, ce qui est faux, évidemment.
Ce qui est évidemment faux. Enfin. Mais bon, le raisonnement, c'est celui-là, quoi. C'est de dire... Parce qu'en fait, ils ont bien vu, ça on l'a déjà dit avant, mais on peut le redire, que en fait, chez les parties civiles, on a eu ce truc étrange de autant les témoins que leurs avocats, enfin autant les parties civiles que leurs avocats, ont été plusieurs à dire qu'il fallait que les filles sortent de prison, quoi. Et du coup, eux, ils voient bien que ça, en fait, ça marche, qu'il y a un truc qui paraît évident à tout le monde et tout. Du coup, ils annoncent 9 pour 4. Alors que 9, pour Sylvie et Nadia, ça veut évidemment dire qu'elles sortiront pas avant au moins 3 ans, quoi.
Et puis, y a tout le truc, si quand même un mot sur les deux évadés.
C'est pour les complices.
Ça, c'est pour les complices, mais c'est la même logique qui s'applique aux évadés, puisqu'il s'agit d'expliquer que si ces personnes ont purgé effectivement des longues peines, s'ils ont vécu l'isolement, s'ils s'en sont pris, certes, un peu plein la gueule par la prison, c'est parce qu'ils l'ont bien cherché, parce qu'ils ont été condamnés à des peines, mais à l'intérieur de la prison, ils ne se sont pas écrasés. Et ils n'ont pas purgé leur peine, ils n'ont pas accepté leur peine. Elle dit qu'on a affaire à des. On est en présence de deux individus qui n'acceptent pas l'univers carcéral. Et c'est pour ça que deux individus dangereux, violents, qui sont à la base, et c'est pour ça qu'ils sont enfermés, et on a bien eu raison de les enfermer, à l'intérieur, ils ont fait que confirmer ça, puisqu'ils ne se sont pas coulés dans le moule du détenu modèle, et qu'ils n'ont pas travaillé à cet aménagement de peine qui est pourtant possible. Ils n'ont pas travaillé à une libération conditionnelle. Ils n'ont pas travaillé à tout ça. Elle prend des exemples dans les CV pénitentiaires de l'un et de l'autre.
Hein. Tout en rappelant évidemment les affaires pour lesquelles ils sont tombés, parce que ça fait toujours très bien aussi quand tu veux condamner quelqu'un de rappeler pourquoi il a été condamné avant. Donc on a des tentatives d'assassinat sur flic la police pour Omar. Et un meurtre pour Christophe Kidder, quoi. C'est-à-dire, on dit, on a quand même deux meurtriers en plus face à c'est nous, ça. Et qui n'ont même pas voulu se soumettre à l'intérieur de la prison. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens, hein?
Voilà. Regardez, Monsieur Top, il a refusé de donner son ADN, donc il a pris 5 mois une première fois. Il a refusé une deuxième fois, donc il a repris 4 mois. Et puis, en plus, ces 4 mois, ça fait que, comme il est recondamné là-dessus, ça lui a fait sauter 36 mois de remise de peine. Donc si on compte bien, et là elle additionne les choses qu'il s'est pris en supplémentaire, plus les choses qu'il aurait dû avoir de déduit, dit en fait il s'est rajouté 2 ans de prison tout seul.
Ouais, voilà. C'est de sa faute.
Voilà, c'est de sa faute.
Donc l'évasion, en fait, pour ces gens, c'est un choix, quoi. C'est-à-dire c'est eux qui ont choisi d'avoir un profil qui les amène à cette extrémité de devoir s'évader pour pas mourir en taule. Mais c'était pas ça qui était prévu pour eux, en fait, à la base.
Et ces gens en plus se retrouveraient, auraient le culot de vouloir faire le procès des longues peines à l'heure actuelle, alors qu'ils auraient pu faire un tout autre choix.
C'est eux qui ont choisi la longue peine.
C'est ça. Et d'ailleurs, ça colle avec ce personnage soi-disant sympathique qui est Christophe Kidder, toujours dans ses propos, qui donne ce visage sympathique, mais qui en fait joue sur tous les tableaux, est un manipulateur. Qu'il faut pas se laisser bluffer. Donc elle prend toujours ce truc-là, en essayant de désamorcer ce truc émotionnel qui aurait pu se jouer, elle le prend par un autre bout, par le biais des personnalités qui, au fond, sont des gens qui ont essayé de manipuler, comme ils ont manipulé déjà pendant toute leur vie. Voilà. Ils sont en train aujourd'hui d'essayer de continuer à manipuler le jury. Attention, vous laissez pas prendre par ce truc-là. Donc, voilà, ces gens ont choisi de s'évader. Et ça, il n'y a aucune raison de trouver là-dedans des excuses à leurs évasions. Point. Voilà.
Du coup, elle finit par cette phrase quand même magnifique, parce qu'on n'a toujours pas annoncé ce qu'elle réclamait, cette charmante dame. Donc elle termine en disant « Je prends en compte qu'il n'y a pas mort d'homme. » Merci de cette mensuétude.
Enfin, oui, bah,
je prends en compte qu'il n'y a pas mort d'homme, à savoir en fait qu'il n'y a jamais personne qui a tiré sur qui que ce soit, à part les flics qui ont essayé de tuer Christophe. Quoi. Plus ou moins. Donc je prends en compte qu'il n'y a pas mort d'homme. Et je demande donc entre 20 et 22 ans pour M. Kidder et entre 18 et 20 ans pour M. Topelage.
Voilà. Alors sans dire non plus pourquoi c'est différent pour les deux, en l'occurrence, et juste en faisant semblant de laisser une possibilité, une marge de manœuvre aux jurés en disant si vous voulez être gentil et que vous trouvez qu'on exagère un peu, vous dites 18 pour l'un et 20 pour l'autre, et sinon vous dites 20 ou 22 pour les uns et pour les autres si vous décidez de nous suivre, sachant qu'on est sympa, on n'a pas demandé 30 ans. Mm.
On va réclamer 30, voilà. On demande un 9 qui veut dire 4, enfin bon, c'est... On va peut-être stopper là et on va se taper après les réponses à cette bande de bâtards ensuite.